presque juif. Un podcast d'Académ par Ruben Honigman.
Je ne me suis jamais tellement intéressé à l'antisémitisme. Si des gens n'aiment pas les juifs, tant pis pour eux. En revanche, ce qui m'intrigue, ce sont les autres. Ceux que le fait juif arrête, qui y trouvent quelque chose qui leur parle, les émeut et les bouleverse. Je vais à la rencontre de ceux que j'appelle des compagnons de route du peuple juif. Ils n'ont pas d'ascendance juive, ne cherchent pas à se convertir au judaïsme et ne sont pas non plus ce qu'on appelle communément des philosémites. Ils se tiennent sur le seuil sans jamais le franchir. Ensemble, nous essayons de refaire leur chemin à l'envers, évoquer une rencontre, une lecture, un appel, démêler les méandres d'une trajectoire à laquelle rien, en apparence, ne les prédisposait. J'interroge leur choix de vie, animé par l'intuition que s'il existe un mystère juif, c'est peut-être par la marge qu'il convient de le sonder.
Je m'appelle Sabine Huyn, je suis poète, écrivain et traductrice littéraire. Je vis à Tel Aviv et en Israël depuis 25 ans.
Bonjour Sabine Huyn.
Bonjour Ruben Honigman.
Au départ de votre cheminement auprès des Juifs, il y a un exil du Vietnam.
Oui, je suis née au Vietnam en fait en 1972, pendant la guerre. Donc je suis une enfant de la guerre. Et mes parents ont dû fuir le Vietnam, le régime communiste, en 1976, donc un an après la guerre. Donc voilà, donc on a été exilés, c'était un exil forcé, oui, vers la France.
Vers la France, là vous aviez 4 ans.
J'avais 4 ans, oui.
Et donc vous grandissez en France ensuite.
Oui, j'ai grandi en France dans la banlieue lyonnaise, dans différentes villes de la banlieue lyonnaise. Au début, on a énormément déménagé, voilà, pour finalement finir à mes yeux. Il n'y a pas grand-chose à dire sur mes yeux, à part qu'il y avait une bibliothèque municipale minuscule dont j'avais lu tous les livres.
Et on parlait quelle langue chez vous à la maison ?
En fait, moi je parlais français avec mes frères. Enfin, mais on parlait pas vraiment, en fait, à la maison, non plus.
Du tout ?
Non. Enfin, mes parents se parlaient vietnamien, mais ils se parlaient pas vraiment non plus, parce qu'ils étaient constamment en guerre. Donc, c'était plutôt... Ils s'insultaient plutôt en vietnamien.
C'était en guerre l'un avec l'autre ?
Oui. Ouais. Mes parents n'allaient pas très bien, voilà. Mmh. On va dire ça comme ça. Donc, il y avait beaucoup de violence à la maison, et donc, il n'y avait pas beaucoup de dialogue.
Il y a cette grand-mère aussi qui vous a élevé durant les premières années de votre vie, encore au Vietnam.
Oui.
Elle vous parlait en quelle langue elle...
Alors, je ne sais pas. J'imagine qu'elle devait me parler en vietnamien, mais comme j'étais élevée par ma grand-mère, j'étais seule chez elle. Ouais. Donc, ma grand-mère était veuve. Donc je n'ai pas de souvenir qu'elle me parlait, en fait. Moi-même, je ne parlais pas à l'époque du tout. En même temps, je ne sortais pas de chez elle, puisque j'ai marché même très tard. J'ai marché vers 2 ans et demi, 3 ans. Donc, par contre, la langue dont je me souviens et qui a ensuite influencé mon parcours de vie, c'est l'anglais américain.
Ouais.
Puisque ma grand-mère écoutait la radio des forces armées américaines. Voilà, donc j'imagine en secret, parce que après coup, quand on y repense, c'était carrément subversif de faire ça. Et donc, moi, la langue que j'entendais constamment chez ma grand-mère, c'était l'anglais américain, les chansons américaines des années 50, 60.
C'est ce qui a donné le nom à ce titre de votre roman aux résonances autobiographiques, Elvis à la radio.
Oui.
Que vous entendiez enfant, donc.
Effectivement, je devais sûrement entendre Elvis. Et puis, il y a cette chanson d'Elvis, Le Noël Blanc, voilà, qui, en fait, qui était le signal secret, le code secret de l'armée américaine pour dire à son personnel d'évacuer le Vietnam. Donc, le code, c'était le jour où on passera cette chanson en boucle, ça voudrait dire que c'est le moment de partir. Donc, White Christmas.
Donc, de ça, vous avez des souvenirs ?
Oui et non, en fait. Oui et non. Parce que, si vous voulez, moi, quand j'entends ces chansons-là, pour moi, c'est comme entendre des berceuses. Donc, oui, j'en ai le souvenir. Dans mon inconscient, c'est là. Et ce sont des berceuses. Je me sens tout de suite bien heureuse. Enfin, je suis entrée à la maison. J'entends ma mère me chanter des berceuses, en fait, quand j'entends ces chansons. Après, quand j'ai grandi, quand j'ai lu des choses, j'ai fait des recoupements dans ma tête. Je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, cette chanson, j'en ai déduit que c'était ça. Donc après, ça a donné un roman. Mais je n'ai pas de preuves, en fait. Il n'y a pas d'enregistrement, de photos, de films, rien. Il n'y a pas de preuves de ces 4 années de vie avec ma grand-mère, voilà, que je prenais pour ma mère, d'ailleurs. Mais il y a des choses qui résonnent dans ma tête. Quand j'entends un mot, quand je lis quelque chose dans un livre, tout à coup, ça fait tilt dans ma tête. Quand on me dit « la mare des têtards », je sais, j'en suis sûre que dans le jardin de ma grand-mère, il y avait une mare avec des têtards. Mais j'ai pas la preuve. J'étais un peu comme un bébé, mais à l'âge de 4 ans, en fait. J'avais 4 ans de retard, en fait.
Vous avez parlé très tard.
Oui. Donc, ma première langue acquise, c'est une langue étrangère.
C'était la langue de l'exil.
Oui.
Et il y avait déjà, dans votre scolarité à ce moment-là en France, il y avait l'élément juif dans votre paysage ?
Non. À l'école primaire, non, du tout. Mais c'est toujours après coup, en fait, quand on y repense. Tiens, elle s'appelait Céline Intel, mais en fait, c'est un nom juif. Et elle venait de Pologne, ses parents venaient de Pologne. Donc, je me dis peut-être, mais je sais pas, en fait. Ensuite, au collège, lycée, quand on commence à... Dans les cours d'histoire, quand on nous fait voir Nuit et brouillard, tout ça, quand le prof d'histoire demande à certains étudiants s'ils vont bien, certains élèves, est-ce qu'ils veulent quitter la salle ou pas. Moi, avant, je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est après coup que je me suis dit, parce qu'ils étaient juifs. Donc, en fait, il y en avait... Il y avait des personnes juives dans mon entourage, mais étonnamment, ces personnes n'avaient jamais dit à personne qu'elles étaient juives. Et ensuite, à l'université, j'avais un très bon ami qui s'appelait Eli. Donc évidemment, il était juif, donc en licence d'anglais. Personne ne lui parlait parce qu'il était beaucoup plus intelligent que nous tous. Il était plus âgé aussi. Et donc, il était un peu à part comme ça. Moi, j'étais aussi un peu à part parce que j'étais toujours à part. Et donc, on est devenus de très bons amis. Et après coup, pareil, je me suis dit, Eli était juif, évidemment.
Alors, vous dites après coup parce que, et ça s'entend, si on vous écoute bien, il y a aussi un petit accent hébraïque, israélien. Quand vous dites, mais c'est plus tard, il y a une intonation israélienne dans votre parler, parce que vous habitez depuis 25 ans.
Oui.
À Tel Aviv.
C'est vrai.
Qu'est-ce qui vous a conduit là-bas ?
Mon ex-conjoint est israélien et nous nous sommes connus en Angleterre en 1995. Et donc, après plusieurs années à vivre en Angleterre et aux États-Unis, nous sommes venus en Israël parce que son papa était tombé malade. Et comme cela faisait 8 ans qu'il n'était pas rentré en Israël, il a dit, bon, il serait temps que je rentre. Et moi, à l'époque, je ne savais absolument rien d'Israël. Ça ne me disait pas vraiment. Enfin, pas parce que c'était Israël, hein, c'est juste parce que moi, j'avais d'autres plans. Je voulais aller faire un doctorat en Californie. Donc, voilà, ma pitom Israël.
Et vous ne parliez pas un mot d'hébreu.
Non, mais pas du tout, pas du tout. On se parlait anglais. Donc je lui ai dit, écoute, moi, je veux faire un doctorat. Je vais postuler en Israël. Et si je suis prise, on y va. Si je ne suis pas prise, tu y vas. Et puis, moi, je vais en Californie. Puis, on verra ce qu'on fait après. Et donc, j'ai cherché sur Internet la meilleure université d'Israël, avec les sondages et tout. Donc, je vois Université hébraïque de Jérusalem. Je dis, OK, je vais postuler. Il y a un département de français à l'époque qui était dirigé par Betty Reutemann, professeur Betty Reutemann. Donc, j'ai postulé et j'ai été acceptée.
Et donc, vous vous êtes installée dans ce pays qui ne représentait rien pour vous à ce moment-là.
Non, rien du tout. Donc, je ne savais rien sur Israël, et ce qui est très bien, parce que je n'avais aucun a priori. Ouais. Et donc, la première fois que je suis arrivée en Israël, c'était donc un an avant qu'on déménage, puisque j'ai dû venir pour mon entretien à l'université hébraïque. Donc, nous sommes venus passer 2 semaines où nous avons loué une voiture et nous avons fait tout Israël en 2 semaines. Et c'était fantastique, c'était fabuleux, c'était féerique. J'ai adoré le pays tout de suite. Et donc, j'étais ravie à l'idée de venir m'y installer.
Qu'est-ce qui vous a plu en Israël ?
Déjà, il y a plein de choses que je trouvais dingues, comme déjà la taille du pays et la diversité des paysages. Je trouvais ça absolument dingue que dans un pays tellement petit, il y ait des montagnes et puis il y ait de la garrigue et il y ait des déserts. Le fait que les gens parlaient plein de langues différentes, ça, j'ai trouvé génial. Puisque, j'aime bien ça, les langues, le plurilinguisme. J'ai trouvé les gens vraiment sympathiques, chaleureux, directs. Donc ça, des fois, ça me prenait un peu de court, parce que surtout à l'époque, il y a 25 ans, j'étais quand même encore maladivement timide. Mais ça secoue. Mais j'avais besoin d'être secouée, c'était bien.
Vous parlez des nombreuses langues qu'il y a là-bas. Israël, c'est aussi le lieu où on a inventé une nouvelle langue. C'est un peu ce que vous essayez de faire aussi dans votre écriture, ce que vous dites en tout cas, d'inventer une langue nouvelle.
De toute façon, quand on écrit, surtout quand on écrit de la poésie, quand on est poète à la base, on sait que la poésie est une langue étrangère à l'intérieur de la langue dans laquelle elle est écrite, déjà. Et chaque poète invente sa propre langue pour sa poésie. Donc la poésie, déjà, c'est un éventail de nouvelles langues, de langues étrangères. Dans chacun de mes livres, j'essaye de c'est même pas que j'essaye de trouver ou d'inventer une langue. Il y a une langue qui va s'imposer pour ce livre en question. Voilà. Et ça, je découvre ça moi-même en écrivant le livre. Il y a quelque chose, il y a une musique qui va s'imposer. Il y a des procédés qui vont s'imposer. Par exemple, dans Elvis à la radio, c'est des inventaires, des répétitions. C'est la musique de ce livre, c'est la langue de ce livre.
Et puis, il y a une autre singularité à Israël, c'est que c'est le pays refuge des gens qui n'avaient nulle part où aller, qui n'avaient pas de chez soi. Ça vous convenait bien ?
Oui, bien sûr. C'est le pays par excellence des exilés. Donc, tous les exilés de la Terre peuvent être heureux en Israël, je pense. Je continue à le penser.
Et comment vous étiez perçu là-bas ? Comment vous êtes perçu ?
Alors, c'était très drôle. À Jérusalem, parce qu'au début, j'ai vécu 6 ans à Jérusalem en faisant mon doctorat. Puis ensuite, après, Après avoir fini mon doctorat, on a déménagé pour Tel Aviv. Mais j'ai continué à faire des allers-retours parce que j'enseignais à l'université hébraïque. Donc, mais je préférais vivre à Tel Aviv. Mais Jérusalem, au début, on me posait toujours les trois mêmes questions quand on me rencontrait. C'était est-ce que tu as fait ton alia ? Donc, moi, au début, je ne savais même pas ce que ça voulait dire alia. Je me disais, pardon, j'ai fait quoi ? Donc moi, je disais toujours, non, j'ai déménagé en Israël depuis les États-Unis, mais enfin, je comprenais pas trop ce terme d'alia. On me demandait aussi si je m'étais convertie au judaïsme. Donc, je savais même pas qu'on pouvait faire ça.
Et vous pensiez qu'on pouvait pas se convertir ?
Non, j'avais jamais réfléchi à cette idée de conversion dans une religion ou une autre, parce que les religions m'avaient jamais intéressée en fait. Et la troisième question, alors ça, c'était quand j'allais nager à la piscine sur Emek Refaim à Jérusalem. Il se trouve que j'y allais aux mêmes heures que les personnes âgées du quartier. Voilà, on avait le même emploi du temps. Et donc, ces personnes âgées me demandaient est-ce que vous travaillez pour la famille Cohen ou me demandaient si je voulais travailler pour eux.
Parce qu'en Israël, les personnes qui travaillent à domicile chez les gens viennent souvent des Philippines.
Des Philippines, voilà, exactement. Et en plus, à l'époque, j'avais les cheveux très longs. Donc voilà, je trouvais ça... au début, ça me vexait, en fait. Au début, c'est bête, hein. Ça aurait pas dû me vexer. Aujourd'hui, ça me vexerait plus du tout. Mais à l'époque, comme j'étais nouvelle et je comprenais rien, ça me vexait vachement et je leur disais, mais pardon, moi, je travaille à l'Université hébraïque de Jérusalem.
Vous dites qu'il est arrivé aussi qu'on vous prenne pour une Russe.
Oui, ça, c'est surtout à Tel Aviv, où souvent, et encore aujourd'hui, on s'adresse à moi en russe.
Des républiques un peu asiatiques, Tadjikistan, possible. On croit que vous veniez de ces ex-républiques soviétiques.
Voilà, possible, parce que je pense que je dois vraiment ressembler à ce type-là, même si je ne sais pas vraiment, mais... Puisque à chaque fois que j'insistais pour dire « mais non, je ne parle pas russe », on insistait derrière et on continuait à me parler en russe et à me dire « mais si ». Donc, ouais. Mais voilà.
C'est quelque chose d'étonnant que finalement, vous vous êtes senti comme un poisson dans l'eau pour rester dans la piscine en Israël, alors qu'on vous associait au petit personnel étrangers, ce sont des gens qui sont renvoyés dans leur pays au bout de quelques années, la plupart du temps.
Oui.
Il y a quelque chose que vous avez trouvé chez les Juifs où vous vous sentiez chez vous.
Alors,
à quoi ça tient ?
Je pense que ça tient beaucoup aux amis que je me suis fait. Puisque je suis arrivée tout de suite. Donc, je faisais mon doctorat à l'université hébraïque. J'ai aussi donné des cours au département de français. Et pour compléter donc mes revenus, j'ai donné des cours au Centre culturel français de Jérusalem, le Centre Romain Gary. Donc j'étais prof de français là-bas, j'y travaillais tous les jours. Et là-bas, j'ai rencontré des collègues formidables. Donc toutes juives, françaises, voilà, mais qui étaient installées en Israël depuis longtemps. Toutes pratiquantes. Juives pratiquantes, en fait, et qui m'ont tout de suite accueillie chez elles. Et on a tout de suite développé une très belle amitié. Donc voilà, je ne me suis pas sentie rejetée ou seule. Je me suis fait des amis tout de suite. Donc les amis de Jérusalem, ce sont toujours mes amis aujourd'hui, 25 ans après. Des amis très proches, c'est ma famille, en fait. Une deuxième famille, tous mes amis de Jérusalem.
C'est ce que vous a procuré, d'une certaine façon, une place dans le monde, puisque vous racontez bien dans Elvis à la radio que vous vous débattez avec cette question de votre case, de votre place dans le monde pendant toute votre vie. Mm-hmm. Et vous êtes devenue traductrice. Mm-hmm. Et vous dites que traductrice, en fait, c'est une façon de continuer à passer d'un lieu à l'autre.
Oui, en fait, la traduction, c'est ça aussi à voir avec l'exil. Mmh. Parce qu'on s'exile, on part en exil dans la langue, dans de l'autre. Et on accueille la langue de l'autre dans sa propre langue. Mmh. Sa propre langue qu'on va transformer. Mmh. Pour pouvoir rendre ce texte en français, par exemple.
Et cette langue hébraïque, puisque vous traduisez de l'hébreu, elle vous a transformé ?
Déjà, la langue hébraïque, elle a un côté aride, comme ça. Mmh. Et brute et aride. On sent un peu les pierres du désert dans la langue hébraïque, la rocaille, c'est un peu rocailleux, comme ça. Et en plus, elle est très efficace. Donc, cette langue est vraiment, finalement, le contraire de pratiquement du style que j'ai quand j'écris de la prose en français. Voilà, où je peux écrire une phrase qui dure 3 pages. Et en hébreu, je ne peux pas. Mmh. Donc, elle recadre, en fait. C'est une langue qui apprend... À l'essentiel, en fait. C'est une langue de l'essentiel, puisque c'est une langue avec des racines. Mmh. Donc, chaque mot a une racine de 2-3 lettres. Donc, c'est son cœur essentiel, son noyau.
Ça vous a permis de réduire votre rapport au langage ?
Oui, ou d'enlever le superflu, peut-être. Ouais. C'est très drôle, parce que la toute première fois que j'ai entendu parler hébreu, c'était aux États-Unis. C'était mon conjoint était au téléphone avec sa famille, en Israël donc. Et quand ils ont fini de parler, je lui ai demandé pourquoi ils se sont disputés. Mmh. Ils ne s'étaient pas disputés. Mmh. Et moi, j'entendais, je les entendais crier et parler fort et d'une façon agressive et rapide. Pour moi, ça avait tout de la dispute. Il m'a dit, mais non, mais il a rigolé. Il a dit, mais pas du tout, mais on parle comme ça.
Ça, justement, c'est quelque chose qui m'intrigue chez vous, c'est qu'il y a effectivement cette dureté dans la langue hébraïque. Il y a aussi cette dureté dans la société israélienne, en proie à la violence, à la mort, aux blessures. Mm-hmm. Et pourtant, chez vous, qui avez beaucoup souffert, qui êtes l'enfant de personnes qui ont beaucoup porté de souffrance, vous le racontez, et bien chez vous, Israël vous a... procurer de l'apaisement.
Oui, peut-être, c'était peut-être... J'avais l'impression de vivre... j'ai toujours l'impression de vivre dans un pays où... on a tous la même histoire, en fait. J'avais l'impression de... j'avais l'impression que ce que j'avais traversé, déjà, c'était rien par rapport, par exemple, aux rescapés de la Shoah que j'ai rencontrée. Mmh. Et en plus, il y avait beaucoup de points communs. Et donc, que je pouvais être comprise. Mmh. Je veux dire, là, j'avais un très bon ami, le poète, l'écrivain pour jeunesse et poète Uri Orlev, qui est mort malheureusement en juillet 2022, à l'âge de 91 ans, je crois. Et... Donc, j'étais très amie d'Ouri et de sa femme, Yahara Orlev. Yahara, en fait, était une de mes étudiantes. Elle apprenait le français. Donc, c'est comme ça qu'on a sympathisé. Eh bien, quand nous sommes devenus proches et que je lui ai raconté un peu mon enfance, Yahara m'a dit, Sabine, tu as vécu ta propre Shoah. Elle m'a dit ça, alors que elle et son mari sont des rescapés de la Shoah. Donc ça m'a vraiment, ça m'a touchée et en plus ça m'a fait comprendre pourquoi je me sentais bien dans la société israélienne. Mmh. Mais c'est bizarre parce que J'excuse tout aux Israéliens. Ce que je n'excuserais pas en France, je l'excuse aux Israéliens. Je ne sais pas pourquoi.
C'est un mot fort quand même de dire « vous avez vécu votre propre Shoah ».
Ouais, c'est très fort ce qu'elle m'a dit.
Elle parlait de votre enfance, de... des blessures de l'enfance.
Oui. Bah, vous savez, quand j'ai lu « L'espèce humaine » de Robert Antelme, et puis quand il parle de la faim et des biscuits chiens, tout ça, je comprenais parfaitement de quoi il parlait. Parfaitement.
À cause des privations que vous avez subies enfant.
Oui, puis moi aussi, j'ai mangé des biscuits pour chien quand je n'avais pas mangé. Et à un moment donné, j'étais à la rue, à l'adolescence, sortir de l'adolescence. Enfin, je n'étais pas encore adulte, c'était en seconde ou première, je ne sais plus.
C'est un autre point que j'ai trouvé inattendu dans votre trajectoire, c'est que les gens qui sont les enfants de personnes déclassées, ce qui est le cas de vos parents, qui ont subi le colonialisme français, littéralement, l'humiliation, et qui ont eux-mêmes reproduit cette violence ensuite, les enfants qui sont issus de cette génération, souvent, voient les Juifs comme des Blancs, comme des dominants. Et ce sentiment d'humiliation se transforme en détestation envers l'Occident, mais aussi envers les Juifs. Ça aurait pu générer chez vous du ressentiment.
Or, on a contre la société française ?
Contre la vie, contre le monde en général. Or, on a l'impression que c'est le contraire que ça a produit.
Mais moi, la France m'a beaucoup donné. Hein. L'école française, qui est apparemment dans un très mauvais état aujourd'hui, à l'époque, moi, je dois tout à l'école française. Donc, je suis très fière d'être française. Et aujourd'hui, je suis encore plus fière d'être israélienne. Mais bon, j'ai toujours été très fière d'être française et de représenter la culture française, d'enseigner le français, pour rendre à l'école française qui m'avait tout donné.
Vous avez cité Uri Orlev tout à l'heure. Il y a un autre auteur qui a compté pour vous, c'est Georges Perec.
Ah oui. Georges Perec, Georges Perec, c'est un peu mon père spirituel, c'est mon maître d'écriture. Georges Perec, c'est aussi c'est la raison pour laquelle j'écris. J'ai commencé à lire Georges Perec chez une dame très gentille qui m'avait hébergée quand j'ai commencé à être un peu à la rue. Et grâce à cette dame et grâce à Georges Perec, on a envoyé mon tout premier manuscrit de poème aux éditions Galilée, qui à l'époque avait publié Perec, a publié Espèce d'espace, je crois, chez Galilée. Donc Georges Perec, il était là dans mes débuts d'écriture.
Qu'est-ce qui vous interpellait chez Perec ?
Je crois cette écriture très organisée, très claire. C'était reposant pour moi dans une vie complètement chaotique de lire des listes, des inventaires, des répétitions, donc des choses que moi après j'ai reproduit dans ma propre écriture parce que ça calme, et puis aussi dans W ou le souvenir d'enfance par exemple quand Perec parle de ce qu'il aurait aimé faire avec ses parents s'il avait pu. Des choses totalement quotidiennes. Quand il dit qu'il aurait aimé que sa mère le coiffe, lui fasse un cran dans les cheveux. Je pouvais bien m'identifier à ce genre de choses, puisque moi-même, j'aurais bien aimé que... Moi, je n'ai pas perdu mes parents comme lui. Lui, il a perdu donc son père à la guerre, sa mère à Auschwitz. Mais je les avais perdus quand même. L'exil avait dévoré mes parents, les avait rendus fous. Donc, j'avais plus de parents, en fait. Et Et donc, il n'y avait pas de vie quotidienne normale avec mes parents. Il n'y avait pas de choses normales que font les parents et les enfants ensemble dans ma vie. Donc, quand j'ai lu ça chez Pérec, qui rêvait de ça, de petites choses quotidiennes qu'il aurait pu faire avec ses parents, j'ai tellement compris ça et donc adoré Pérec.
Et puis, ces listes et ces récits permettent aussi de retrouver la mémoire. Justement, ce sont les souvenirs d'enfance. Or, vous, Sabine Wynne, vous êtes une grande amnésique.
Oui, je suis une grande amnésique. C'est comme ça. Il y a plein de choses que je sais qui se sont déroulées dans ma vie, mais je ne saurais absolument pas en parler parce que je ne m'en rappelle plus du tout. Je le sais parce qu'on me l'a raconté. Mais l'amnésie, je pense, hein, j'ai pas étudié la question, j'ai pas même pas lu d'article dessus ni rien, j'ai pas fait de recherche dessus, d'expérience, je sais que quand on traverse de grands chocs émotionnels, traumatiques, ben ça efface la mémoire, ça doit être un mécanisme de défense du cerveau.
Israël. Précisément, le pays où vous avez choisi de vous installer, c'est un lieu du peuple de l'exil, mais aussi pétri de mémoire.
Oui.
C'est peut-être ça aussi qui vous a permis d'y faire votre nid.
Déjà, oui, c'est drôle pour une amnésique de venir s'installer dans un pays où la mémoire collective est tellement prégnante. C'est l'un des moteurs de la société israélienne d'entretenir cette mémoire collective.
C'est Zahor à tous les coins de rue.
Absolument. Et en plus, tout de suite, donc j'ai rencontré des rescapés de la Shoah et tout de suite, je me suis dit, moi, je vais être traductrice, mais je veux traduire que des livres sur la Shoah. Je veux que mon travail ait un sens. Je veux pas traduire n'importe quoi. Donc c'est vrai qu'au début, j'avais commencé à traduire que des livres qui concernaient la Shoah. Voilà. Bon, après, il a fallu que je me diversifie pour mieux gagner ma vie. Mais...
Vous êtes devenue assez vite israélienne par le mariage avec votre premier mari.
Oui.
Vous avez une fille qui a 14 ans aujourd'hui, qui grandit comme une israélienne.
Oui.
Pour autant, vous ne vous êtes pas convertie au judaïsme.
Non.
Non.
Mais voilà, toujours ma réponse, c'est je suis athée, je ne crois pas en Dieu. Après, on me rayonnait et on me dit, mais on peut être juif sans croire en Dieu. On peut être un juif athée. Donc, si on peut être un juif athée, alors on n'a pas besoin de se convertir.
Ouais.
Et puis, je ne suis pas juive. Je n'ai pas besoin d'être juive, je suis israélienne.
Mmh.
Et pour moi, c'est... Voilà, c'est ma magaine David, Israël. Je suis israélienne, hello. Et puis pour ma fille, c'est pareil. On n'en parle jamais. C'est une question qui n'est jamais arrivée sur le tapis, parce que ma fille est israélienne, point. Et personne ne lui a jamais demandé quoi que ce soit par rapport à ça.
Mais ça fait que vous vivez quand même au rythme du calendrier israélien, qui est calqué sur le calendrier juif, qu'il y a Pessah, il y a Pourim.
Ouais.
Tout ça fait partie de votre vie, en fait.
Oui, c'est très gai.
Ouais.
Et en plus, moi, j'aime toutes les occasions de célébrer quoi que ce soit. Mmh. Donc, par exemple, en décembre, on célèbre Hanouka, on allume les bougies de Hanouka.
Mmh.
Et après, on fait un sapin de Noël. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, ma fille croyait ferme au Père Noël, jusqu'à ce que j'ai dû lui dire quand même, Orlane, et elle a pleuré pendant 2 heures. Mais on célèbre tout à la maison. Mais j'ai appris en fait tous ces rites concernant les fêtes juives, grâce à l'école en fait de ma fille. J'ai appris avec elle finalement.
Ouais.
Voilà. Donc,
vous avez l'impression que vous ne faites pas partie de la religion juive, quoique, mais que vous faites partie du peuple juif. Il y a quelque chose là d'assez liminaire.
Oui, j'ai pas de problème à dire aujourd'hui que je fais partie du peuple juif. Mmh. Et je dis aujourd'hui parce que, en fait, avant, j'y avais jamais vraiment réfléchi.
Mmh.
Et puis, avant aussi, mon étendard, c'était un peu anti-communitarisme.
Mmh.
Je refuse de faire partie de quoi que ce soit.
Anti-assignation identitaire. Oui.
Voilà, tout ça. Et j'étais très fière de ça. Et j'étais bien comme ça. Et je n'ai pas changé d'avis, mais Mais aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, après le 7 octobre, tout ça...
Quand vous dites avant, c'est avant le 7 octobre,
oui,
en fait.
C'est ça.
Et depuis, quand on vous suit un petit peu sur les réseaux sociaux, on vous sent très, très en colère.
Oui, je ne décolère pas.
Qu'est-ce qui se passe ?
Tout de suite après le 7 octobre, le 8 octobre, alors que l'armée israélienne n'était même pas à Gaza encore, les gens criaient au génocide, enfin, n'importe quoi, quoi. Donc... Et puis, quand je dis les gens, c'est des personnes que je connaissais, que je fréquentais dans le milieu littéraire, français, américain, anglais. Et voilà. Donc, c'était quand même une grosse claque. C'était quand même... Mais c'est bien. Les masques sont tombés tout de suite.
Ouais.
Mais en même temps, mais comment ? Enfin, comment, dès le 8 octobre ? Comment pouvez-vous ? Aucune empathie. Enfin, et puis dire que les massacres, c'était des mensonges, que c'était inventé, que c'était de la propagande israélienne. Ah non. Non. Ça m'a vraiment ulcérée. Ça m'a rendue malade. Autant malade que la gravité des massacres. Les deux en même temps.
On sent que c'est une colère qui ne trouve pas d'apaisement. Encore 2 ans après.
Ouais, mais elle va trouver un apaisement parce que j'ai écrit mon 3e roman, il va porter sur ça. Donc...
Ah, c'est par l'écriture qu'on trouve alors peut-être l'apaisement.
Oui, tout à fait. Puisque même pendant les moments où je me sentais vraiment mal, si j'allais à l'ordinateur et que je traduisais quelque chose, j'arrivais à me calmer. C'était la seule chose qui me calmait, traduire quelque chose. Donc écrire. Mais pas écrire, je ne pouvais pas écrire. Mon esprit n'était pas assez disponible pour créer, mais pour traduire, pour me mettre au service d'un texte. Donc j'avais déjà le texte, je n'avais pas à l'inventer. C'était la seule chose qui parvenait à me calmer.
C'est le texte comme abri.
Ouais, comme refuge. Sans le livre, c'est un refuge. Hein. Oui, mais le texte comme abri. En plus, mon bureau est dans le Mamad, dans la pièce fortifiée de l'appartement.
C'est l'abri au carré.
Oui.
On dirait que le 7 octobre, pour vous, ça a été la première fois que vous l'avez vécu vraiment dans votre chair,
l'antisémitisme. J'ai vécu l'antisémitisme après le 7 octobre, en n'étant pas juive, mais en étant israélienne, j'ai vécu l'antisémitisme. J'ai vécu des rejets, des annulations, toutes sortes de choses, parce que je suis israélienne, et donc parce que je soutiens le peuple juif, oui.
Vous m'avez dit, quand on s'est parlé avant cet entretien, que... Le 7 octobre a remis les pendules à l'heure.
Oui.
Notamment dans parmi vos proches.
Oui, même des gens très proches, même des gens très très proches. Et Et au début, ça fait mal, ça fait très mal. Mais après, on se dit, très bien, je sais à quoi m'en tenir maintenant. Voilà. Et on se rapproche encore plus des Juifs.
C'est chez vous, Israël ?
Oui, tout à fait. Je n'en partirai jamais. J'aurais pu en partir 1000 fois. En plus, du point de vue professionnel, si j'avais poursuivi une carrière universitaire, ce que j'ai abandonné à un moment, cela aurait été beaucoup plus profitable que je quitte Israël. Mais j'ai préféré ne pas quitter Israël.
Oui, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'Israël, c'est un pays en rabougrissement, intellectuel, culturel, démocratique aussi. Vous ne partagez pas ça ? On dirait que...
Non, pas du tout.
La vitalité est encore là.
Mais bien sûr. Quand on vit en Israël, on sait, on voit ce qui se passe autour. C'est l'un des pays les plus dynamiques au monde, l'une des sociétés les plus dynamiques au monde. Et même aujourd'hui, même avec... tous les problèmes politiques, avec le gouvernement, on a hâte que les élections arrivent en octobre. Mais ça continue à être C'est vraiment un pays de vie. Et je vois ma fille et ses amis, ses camarades de classe, mais qui font leurs devoirs, qui ramènent des 95 en maths. Enfin, je me dis, mais c'est incroyable. C'est des gamins, depuis qu'ils sont nés, ils courent aux abris. Une fois tous les 5 ans, il y a une guerre. Ben, voilà. Et puis, à l'université, la recherche, l'Institut Weizmann, tout ça. Et quand j'arrive en France, j'aime de moins en moins venir en France parce que je vois des gens qui se plaignent de tout et de rien et qui, ben, dès qu'il pleut, ils sont déprimés et ils veulent plus sortir de leur lit. Et ils veulent... Mais je me dis, mais de quoi tu te plains ?
Donc, Israël a mis fin à votre exil ?
Je crois que oui. Mais c'est aussi lié au fait que j'ai un enfant. Donc, ça force un peu à planter des racines quand on a un enfant. Mais je crois que oui, parce que même avant Orlan, je me sentais bien en Israël et je me sentais mieux qu'ailleurs, en tout cas. Donc, ça suffit. Mais Orlan, vous savez qu'elle a un prénom bilingue hébreu-vietnamien.
Ah oui?
Oui, en fait, moi, je ne savais pas qu'Orlan était un prénom qui existait en France. Je croyais que je l'avais inventé.
Ouais.
Parce que quand j'ai appris que j'attendais une fille, je me suis dit, oh, ça serait bien si elle pouvait avoir un prénom trilingue, en fait, un prénom qui marche à la fois en France, en Israël, et puis pourquoi pas au Vietnam. Et puis, ma meilleure amie s'appelant Aurélie, donc Or, je me suis dit, Or, c'est bien, c'est la lumière. Et... en apprenant que j'attendais une fille, je me suis acheté une orchidée. Donc, pour voir comment... Enfin, pour que l'orchidée grandisse en même temps que ma fille. Et elle a grandi en même temps. Elle a vécu 10 ans, mon orchidée. Et orchidée, en vietnamien, se dit lan.
Ah.
Voilà. Donc, je me suis dit, ah, or lan. Voilà, super. Et ça sonne bien en français. Et après, j'ai regardé sur Internet et il y avait effectivement le prénom Orlan, qui vient du vieux allemand, je crois. Je crois, en fait, Roland, tout ça, c'est la même origine et ça vient du vieil allemand. Il y a plusieurs... Bon, il peut signifier Luciole, mais il peut aussi signifier celui qui a un bon nom. En fait, ça veut dire Baal Shem Tov.
Ah, Shem Tov. Merci Sabine Wynne.
Ah, merci à vous.
Presque juif, une production Academ. Conception et présentation, Ruben O'Neillman. Prise de son et montage, Isaac Payon.